Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Connaissez-vous le glocal, un nouveau mot que l'on entend de plus en plus et qui pourrait bien devenir demain une sorte de sésame? Le glocal, c'est l'alliance de l'échelle locale et de l'échelle globale, forcément. Un résumé de la tendance actuelle qui veut agir localement en prenant en compte le monde. Une bien humble intention que l'on pourrait bien appliquer avec un peu d'imagination à nos loisirs dans notre cher sud-ouest. Pas besoin de partir loin en effet pour vivre de grandes aventures. À l'heure où l'impossibilité de voyager peut donner l'impression d'être enfermé en France, cette émission pour faire la preuve que l'on peut trouver à côté de chez soi des merveilles locales qui portent, si ce n'est une attention globale, parle en tous les cas au monde entier. Partir loin en Occitanie, c'est donc le thème de cette émission en ce vendredi matin. On va voyager, c'est une attention, voire même un leitmotiv en ce moment dans cette émission Vivante Église, à l'occasion de ces émissions du vendredi, où on prend l'air, on fait des rencontres et on parle cinéma ou actualité autour du plateau. Daniel Soukaz des Soukaz, qui est directeur du Pic du Midi, Christophe Azman, qui est directeur adjoint du Musée Soulages, et Marc Tisser, qui est directeur du Parc National des Pyrénées. On va commencer avec vous, Daniel Soukaz des Soukaz, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir pris du temps donc pour nous emmener en hauteur. On va commencer par ce lieu emblématique des Pyrénées qui peut-être lui particulièrement est connu dans une bonne partie du monde. Commençons par prendre le téléphérique si vous le voulez bien et aller en haut de ce qu'on appelle aussi donc le phare des Pyrénées. Si on était peut-être avec vous, je ne sais pas si vous êtes là-haut, en tout cas avec un peu d'imagination, en haut du Pic du Midi en ce vendredi matin, qu'est-ce qu'on y verrait?
Mais moi je suis en bas, hein, je suis à la Montjuïc, je suis au pied du téléphérique, vous avez parlé du téléphérique avec nos deux transformes téléphériques, hein, une vraie balade et une expérience à vivre pour se retrouver sur cet observatoire. Et sur cet observatoire, la particularité, c'est d'être en retrait par rapport à la chaîne des Pyrénées et de s'offrir les Pyrénées à perte de vue, puisque ce sont plus de 300 km de sommet qui s'offrent à vous, rien qu'en levant la tête et en regardant en face de soi. Donc, on a un peu l'impression, on est sur le toit des Pyrénées et c'est ce phare depuis lequel on contemple tout ce beau massif, quoi. Donc, effectivement, la première expérience passée le téléphérique, c'est celle du panorama. Et nos publics montent déjà pour découvrir ce magnifique site.
Donc, à savoir. Ouais, alors, on arrive donc à 2877 mètres en haut de ce phare. Avant qu'on se balade avec vous en ce lieu et qu'on y voit différents aspects, ce lieu est fermé au public en ce moment, mais il paraît qu'il y a quand même du monde en haut. Qui sont les gardiens de phare en ce moment?
Mais ce lieu, il est malheureusement, comme tous les lieux publics, hein, de la sorte fermé au public, et comme nos stations de sport d'hiver. Là-haut, on retrouve toute une équipe, hein, qui est liée à la mission de service public que le syndicat mixte a repris à l'État, puisqu'on retrouve sur site des techniciens de chez nous sur la partie remontée mécanique, un conducteur, deux techniciens. On retrouve des gens de la sécurité, puisque on est à 3000, hein, et si on a un feu, faire le 17, ben, on peut attendre les pompiers, donc on a des pompiers en interne. On a également un cuisinier qui travaille à préparer les repas, tous les repas et déjeuners et casse-croûte de nuit à nos équipes, mais surtout aussi aux scientifiques. On a deux techniciens de maintenance, parce que la seule énergie là-haut, c'est l'électricité. On est alimenté en tension, donc on a deux techniciens. Donc voilà pour l'équipe, ce sont 7 personnes de la régie. Au minimum en face, on a deux techniciens de l'observatoire, hein, qui sont là pour entretenir les coupoles et la partie scientifique. Et on a une personne, voire deux, de télévision de France. Et à ce personnel technique se rajoute, en fonction des semaines, du personnel scientifique. On avait la semaine dernière les gens du 1 mètre, hein, l'observatoire de Meudon qui était là. Donc on a des scientifiques qui viennent en mission ou qui viennent pour la journée, parce que autant le lundi on redescend les gens qui sont les personnels qui sont là depuis le jeudi, autant le jeudi, on fait un aller-retour, une montée le matin et une descente l'après-midi. Voilà, c'est très limité, mais nous, si on devait rouvrir au public, on est capable de rouvrir demain parce que tout le site est déneigé, tout le site est entretenu. La partie basse est déneigée aussi, donc on serait capable d'ouvrir très vite. Malheureusement, on attend des décisions qui deviendront, on l'espère, plus tard pour les vacances de Pâques.
Très prochainement, on espère. Alors si on se balade, puisqu'il n'y a pas grand monde, qu'on va dire on est virtuellement avec vous, c'est grand en fait là-bas. Moi, je n'y suis jamais allé, mais j'ai vu que ça faisait plus de 10 000 mètres carrés de plancher bâti sur 6 niveaux, 5 km de couloir. Qu'est-ce qu'on trouve en haut en fait du pic du Midi?
Ben c'est immense en soi, on n'a pas l'impression quand on le voit d'en bas et on voit une antenne qui brille, on voit le gros télescope Bernard Lieu aussi qui peut briller, mais ensuite c'est effectivement une petite ville à 3000 mètres d'altitude, tout autonome, et vous l'avez dit, un hectare de plancher, mais on a surtout, quand vous arrivez, ces 750 mètres de terrasse pour découvrir ces extérieurs. Dès qu'on est sur l'extérieur, on est tous tentés parce que on a beaucoup parlé du ponton dans le ciel et on est suspendu au-dessus du vide. C'est près de 1000 mètres de dénivelé et de vide sous les pieds avec cette passerelle métallique de 12 mètres avec une extrémité vitrée qui s'avance sur le vide. Donc c'est quand même l'attraction du site. Ensuite, sur l'extérieur, on a aussi des tables d'orientation qui vous décrivent ce panorama dont on a beaucoup parlé, mais aussi, surtout à l'intérieur, on peut découvrir un espace scénographique important, puisque on a construit dans la coupole du Coronograph, c'est la coupole Bayeux, la plus ancienne du site qui date de 1908, on a construit le planétarium, certainement le plus haut planétarium d'Europe. On a également une coupole qui est accessible dans laquelle on fait découvrir, si vous voulez, au public le fonctionnement d'une coupole, le fonctionnement d'un télescope et avec des instruments qui sont quasi professionnels, des séquences de prise de vue de soleil sont réalisées. Pour démontrer effectivement que depuis le pic, on a une vue autant sur la nuit que sur le jour, sur ce ciel et sur ce cosmos, avec les secrets de cette astronomie qu'on découvre, mais très ludiquement, accessible à tous.
On y reviendra sur l'astronomie, si ça vous embête pas, parce que j'aimerais qu'on fasse un coup d'arrêt dessus. Si on fait un petit détour par l'histoire, j'ai vu que l'histoire du lieu, en tout cas, trouvait à être valorisée. Vous avez aujourd'hui un histopade, c'est la première fois que j'avais entendu parler de ça. C'est donc une visite sur tablette tactile qui vous permet de plonger donc dans l'historique du lieu. Si on fait un tout petit peu l'historique du lieu avec vous, alors pas tout, j'ai noté 1873, le général Champion de Nansouty organise une première campagne météo au pic du Midi. 1878, pose de la première pierre de l'observatoire au sommet du pic. Qu'est-ce qu'il faut retenir comme grande date? Par exemple, vous avez parlé du coronographe. J'ai noté 1930. Le coronographe, c'est quoi?
C'est 1930, c'est vous qui l'avez noté. Effectivement, c'est vrai que vous avez repris la date la plus importante, c'est 1878, la pose de la première pierre par le général Nansouty et l'ingénieur Vossena. Il s'était installé quelques années plus tôt au col de Sancourt et donc ils ont décidé, puisqu'ils faisaient des relevés météo, et tout a commencé par la météo sur le site du pic, et ça a glissé très rapidement sur l'astronomie. Et 1930, c'est l'invention du coronographe par Bernard Lieu au pic du Midi. Donc c'est un instrument, un télescope qui permet de créer une éclipse artificielle autour du Soleil et sur le Soleil et d'analyser le tour du Soleil, sa couronne avec ses éruptions. Donc c'est quelque chose qui continue à être observé sur le pic, puisque le coronographe est ouvert tout au long de l'année. On a un scientifique qui est responsable du programme et des astronomes associés donc des érudits qui montent pour tenir les semaines à photographier cette couronne. Donc 1930, après, il y a des éléments astro avec la construction du télescope de Amario dans les années 80, mais aussi des éléments de vie, quoi, puisque c'est, il faut quand même, ce site, ça a été la vie sur ce territoire avec les porteurs, avec une vie qui tournait autour du pic, hein, autour des porteurs qui montaient aux scientifiques et qui passaient l'hiver là-haut avant qu'on ait l'électricité, avant qu'on ait un téléphérique pour accéder. Et c'était ces accès qui se faisaient à pied avec des skis sur la période hivernale et qui se faisaient avec des mules sur toute la partie estivale, avec des travaux de titans menés par des hommes d'une volonté terrible. Enfin, je veux dire, il y a une histoire autour, une histoire humaine, une histoire scientifique. Et aujourd'hui, déambuler sur ce site, c'est faire partager cette expérience à nos clients.
Et on imagine l'épopée donc à retrouver dans cet histopade, cette tablette tactile qui permet de voyager à travers l'histoire. Alors, j'aimerais juste que...
Dans l'histopade, on est sur de la réalité augmentée et on a repris les éléments historiques de l'époque et qu'on a retracés sur cet outil et sur cette tablette ou avec je veux dire, des photos. Et en reprenant ces photos, on a vraiment une réalité augmentée qui nous permet d'être dans le détail, et dans le détail de l'époque, et de faire vivre l'expérience passée, du passé à nos clients.
Alors, autre chose donc extraordinaire, vous en avez parlé, donc c'est la possibilité d'observer les étoiles de manière, on va dire, assez exceptionnelle, avec les outils divers et variés que vous avez mentionnés, et puis des outils pédagogiques. Vous êtes depuis 2013 donc une réserve internationale de ciel étoilé. C'est quoi une réserve internationale de ciel étoilé ?
Mais la réserve de ciel international, le ciel étoilé, alors en plus c'était la première en Europe, hein, en 2013. Aujourd'hui on a quelques-unes, puisqu'on a les CVN, enfin, d'autres en France déjà, mais et sur notre belle région d'Occitanie. Mais c'est vrai que l'objectif c'était de travailler contre cette pollution lumineuse. Hein. On avait les scientifiques avaient constaté que les halos lumineux, l'éclairage public, les façades des vitrines éclairées toute la nuit, les grandes surfaces dont les parkings restaient éclairés toute la nuit, avaient pollué le ciel et empêché d'aborder la vision de ce ciel déjà en vide, mais surtout au pic. Quand on se retournait sur le côté sud, on était de plus en plus gênés. Donc l'objectif ça a été de classer cette réserve. Hein. On a porté cette labellisation hein, qui avait démarré avec une volonté associative des scientifiques de l'observatoire.
Donc j'ai noté que c'est 612 km² autour, c'est ça, du pic du Midi. Donc surtout
sur un territoire de 251 communes a été créée cette réserve et on a voulu raccrocher donc à la première démarche donc le parc national des Pyrénées et le syndicat départemental d'électricité et on travaille chacun dans notre domaine de compétences sur cette réserve de ciel étoilé et à savoir quand même qu'il y a eu de très gros travaux qui ont été menés dans la conversion de cet éclairage. Il y a eu un recul qui est significatif sur cette zone de la pollution de l'éclairage public et on a également dire qu'on porte un projet, la construction de la maison de la nuit là, sur le Tourmalet, on a déposé un permis de construire, on va créer le premier musée portant sur la protection de la biodiversité par rapport à cette pollution lumineuse dans le cadre d'un programme transfrontalier pour TESA avec des partenaires français et espagnols. Et on est très motivés autour de cette thématique-là, et cette thématique-là qu'on défend aussi puisqu'on travaille également sur un dossier UNESCO, où on voudrait déposer très rapidement avec l'Observatoire Midi-Pyrénées, l'Université Paul Sabatier et l'État, une candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est essentiel et on fait traverser, si vous voulez, on fait traverser nos clients. Alors on a des clients en journée sur le site et on a aussi des clients sur la nuit qui peuvent passer la nuit, 27 clients, où on les fait rêver et puis c'est vrai qu'on leur fait prendre conscience que là-haut, depuis le pic, ce sont des millions d'étoiles qu'on peut découvrir, alors que malheureusement, quand on est en ville, on fait la comparaison dans l'espace expérience de notre musée entre quatre ciels, et pourtant des ciels qu'on pourrait penser non pollués, c'est celui de la Place Verdun à Tarbes, le village de Campan, et ensuite près de Gavarnie en montagne, un beau ciel étoilé, et celui encore plus beau et majestueux, c'est celui du Pic du Midi. C'est quand même quelque chose qu'il faut qu'on conserve
et qu'il faut aller voir.
Il était nécessaire qu'on puisse nous être à la manœuvre.
Et qu'il faut aller voir. Alors une fois qu'on est monté, et je finirai par ça, il faut descendre. On peut descendre par le téléphérique, mais en fait, on peut aussi descendre. Et j'ai vu, alors j'étais surpris, on peut descendre en ski. C'est un espace freeride que vous avez donc créé il y a quelques années, ouvert, si je ne me trompe pas, en 2013. À quoi ça ressemble un espace freeride et quel niveau il faut de ski, j'ai envie de dire, pour tenter l'aventure?
Ben, juste dans les propos, expliquer quand même qu'on n'a rien ouvert en soi. C'est un espace de haute montagne qui était accessible aux skieurs. Hein, et jusqu'en 2013, il y avait une obligation d'être accompagné par un guide ou un moniteur. Cette obligation, elle a sauté en 2013, c'est-à-dire qu'on rentre sur un espace freeride, mais c'est un espace de haute montagne. Des espaces skiables qui sont plus ou moins engagés. Nous, on préconise toujours l'accompagnement d'un guide pour les profanes, mais ce sont des pentes qui sont ni balisées ni sécurisées, et c'est un espace de liberté qui est très tentant. Il faut quand même être initié pour partir seul sur ces pentes.
Ça fait des pentes à combien de pourcents?
Si vous prenez le couloir des poubelles, c'est affreux, c'est plutôt le couloir nord que le couloir des poubelles. Ce sont des pentes qui avoisinent les 50% quand même.
Donc, itinéraire réservé aux très bons skieurs, faut quand même le préciser.
Itinéraire réservé aux très bons skieurs, oui. Et puis on le voit, je veux dire, quand les conditions sont bonnes, les cabines sont pleines, mais elles sont pleines de skieurs qui sont équipés vraiment freeride. Alors le freeride, c'est un ski particulier avec des skis larges, souvent avec des protections au minimum. C'est l'ARVA, c'est un détecteur d'avalanche, mais c'est aussi les sacs ABS en protection, c'est le casque. Enfin, on a des skieurs qui montent sur le pic qui sont initiés. Donc c'est sûr que nous, on n'a pas ouvert un domaine de haute montagne. Il est d'un accès libre, on ne fait que transporter ces skieurs-là en les mettant face à leurs responsabilités et en les appelant sur une approche qui doit être mesurée autant en termes de niveau de ski que de météo ou de risque d'avalanche.
Voilà, le Pic du Midi à découvrir dès que possible et dès que vous serez ouvert. Merci d'avoir pris du temps pour nous emmener en hauteur et nous faire rêver. En ces temps, on en a bien besoin. On va faire une première pause musicale, mais rendez-vous donné au Pic du Midi. Un grand merci à vous, Daniel Soukaz des Soukaz.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Partir loin en Occitanie, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église en ce vendredi matin. On prend le large, on voyage en France, dans le sud-ouest, alors qu'on est contraint à moins voyager, ou en tout cas à voyager plus localement autour du plateau. Pour rappel, Daniel Soukas des Soukas, directeur du Pic du Midi, Christophe Hasman, qui est directeur adjoint du Musée Soulages, et Marc Tisser, qui est directeur du Parc National des Pyrénées. Christophe Hasman, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir pris le temps, un peu au pied levé, il faut l'avouer, de participer à cette émission. Alors avec vous, après le Pic du Midi, on redescend dans la vallée, j'ai envie de dire, et on se dirige du côté de Rodez pour découvrir le musée Soulages et donner envie à nos auditeurs, quand vous serez réouvert, de découvrir ce musée, ce peintre et un certain nombre de ses œuvres. Peut-être un petit point météo quant au musée. Vous êtes fermé, évidemment. Oui. Ça va, vous avez le moral?
Oui, on continue à avoir le moral. En fait, on prend en positive, on prend les choses du bon côté. C'est-à-dire qu'on avance sur des projets, puisque maintenant nous avons un petit peu de temps devant nous pour pouvoir travailler à des projets qu'on n'aurait pas eu le temps de faire par ailleurs. Et donc, on travaille pour la réouverture et on va essayer de faire des choses encore plus importantes pour cette réouverture.
Alors, je le disais dans l'introduction, avec un peu un sourire dans la voix, je parlais du glocal, donc cette réalité, enfin ce mot dont on entend de plus en plus parler, qui veut dire qu'on essaye de faire local à l'échelle internationale. Peut-être que d'un point de vue culturel, Soulages pour le Sud-Ouest en est la parfaite illustration, en tout cas d'une réputation presque universelle. Avant qu'on parle du musée, on peut peut-être commencer par parler du peintre. Donc c'est un homme donc qui est né, pour ceux qui par hasard ne le sauraient pas, donc en 1919, voilà, pardon, je me perdais dans mes fiches, qui n'est pas décédé, hein, qui a donc 101 ans, oui. c'est bien cela. Vous oui. diriez, c'est un peintre mondialement connu aujourd'hui?
Oui, c'est un peintre qui a traversé un siècle déjà, et c'est absolument ahurissant hein, de constater cette carrière qui a plus de 75 ans de carrière maintenant, même 80 ans presque, donc c'est assez incroyable, et surtout en fait le musée à Rodez a cette particularité d'être le seul musée en France et même en Europe sur un artiste encore en vie, donc c'est assez exceptionnel.
Alors j'ai lu entre autres donc à l'occasion de ces 100 ans au Louvre, il y avait eu donc une rétrospective avec des musées du monde entier qui avaient prêté des œuvres. Donc il est connu, on va dire, de New York jusqu'au Japon,
oui. François et Soulages. Donc il a d'ailleurs été connu finalement avant à l'étranger par rapport à la France. Sa première rétrospective importante a lieu en Allemagne. Il va ensuite exposer largement aux États-Unis, au Brésil, dans tous les pays du monde. Et il faut attendre 1967 pour qu'il y ait une vraie reconnaissance en France. L'adage, finalement, on n'est jamais prophète en son pays, marche très bien pour Pierre Soulages. Il a aujourd'hui une reconnaissance internationale, y compris en France, même si finalement il était connu avant à l'étranger par rapport à la France.
Alors Soulages est connu, entre autres, hein, on y reviendra peut-être, pour ses peintures de couleur noire avec différents reflets. On appelle ça, si j'ai bien compris, le noir-lumière ou l'outre-noir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de son parcours, je ne sais pas, de son enfance ou de l'homme oui. qu'il est? J'ai lu cette anecdote, lorsqu'il était dans le Rouergue, il faisait donc une encre sur une feuille blanche, un paysage de neige, et son ami lui dit « Qu'est-ce que tu es en train de peindre, blanc sur blanc ?» Et il disait justement un paysage de neige. Donc ça lui a commencé tôt que de vouloir, on va dire, oui. Troubler par les couleurs ou aller au-delà des couleurs.
Oui, oui. En fait, il a voulu représenter la neige, mais en utilisant l'encre noire. Et donc, en fait, c'est parce qu'il avait déjà repéré, même de manière inconsciente, que le blanc faisait ressortir le noir et inversement. Surtout, en fait, que le noir faisait ressortir le blanc. Et donc, ça accentuait le côté lumineux qu'on pouvait avoir quand on regarde de la neige. Mais c'est quand même quelque chose de très particulier, déjà, cette démarche de considérer que le noir est une couleur, alors que pour plein de monde, finalement, le noir n'est pas forcément une couleur. Pour lui, c'est une couleur qui est même prédominante et qu'il va utiliser, et qu'à la fin, même, il ne fera des tableaux qu'avec cette couleur. Là, des tableaux qui sont entièrement noirs. Alors, évidemment, ça dépasse complètement simplement le noir, parce que dans le noir, il va chercher la lumière. Et effectivement, on pourra parler, si vous voulez, des outres noires et de cette manière de travailler où la lumière ressort parce qu'elle va jouer sur les reflets donc de la matière noire.
Alors venons-y justement peut-être et de la naissance de cette expérience de l'outre noir, si j'ai bien compris, elle est datée janvier 1979.
Exactement.
Il peignait une toile noire et puis il s'est passé quelque chose, racontez-nous.
Oui. Alors jusqu'alors, en fait, il y avait toujours du blanc dans ces toiles qui étaient laissées en réserve pour justement créer les effets de contraste entre le blanc et le noir. Et ce jour-là, il n'arrive pas à sa toile, il n'est pas satisfait de ce qu'il fait, et donc il rajoute du noir, il en enlève, il racle avec ses outils, il travaille, et à un moment donné, il se rend compte que sa toile est complètement noire, il n'y a plus de blanc du tout. Et donc il se dit qu'il a complètement raté son travail, que donc il va falloir qu'il se débarrasse de ce tableau-là, parce que c'est pas, il n'arrive pas justement à faire revenir du blanc et pour faire ses effets de contraste comme il a l'habitude de le faire. Et donc il décide d'abandonner ce tableau, et de le poser par terre comme ça, et donc il prend un peu de temps comme ça, et quand il va revenir dans son atelier, il va se rendre compte de tous les effets de la lumière qu'il y a justement à la surface de sa toile noire. Et donc c'est comme ça, par hasard, qu'il découvre le secret de ses outres noires, et qu'il va ensuite continuer ses recherches dans ce domaine-là, en faisant des toiles avec beaucoup de matière, il y a une belle épaisseur de matière noire donc dessus, qu'il va strier, qu'il va lisser, avec plein d'outils qu'il fabrique lui-même, d'ailleurs il a cette particularité de fabriquer lui-même ses outils, et donc de strier la matière, de la charcuter, de la triturer dans tous les sens, afin qu'il y ait ensuite des reflets de lumière qui se fassent et qui créent donc une forme de lumière qui vient vers vous quand vous regardez ces tableaux-là. Ça explique qu'en fait, pour bien regarder un outre noir, il faut forcément se déplacer devant la toile. Parce que pour constater les effets de lumière qu'il y a, il faut se déplacer devant la toile et faire bouger la lumière aussi au rythme de son déplacement.
Est-ce que vous pouvez prendre un exemple avec une toile en particulier pour illustrer ? Alors c'est évidemment très dur à la radio, mais peut-être êtes-vous familier de l'exercice ?
Et je vais peut-être effectivement donner envie à certaines personnes de venir découvrir cette œuvre-là, parce que cette œuvre-là, pour l'instant, est encore inédite. Personne ne l'a vue. C'est une œuvre qu'il a faite à l'occasion de ses 100 ans. Donc c'est une œuvre qui date de 2019 et qui est un grand outre noir qui fait plus de 3,90 m de haut. Et donc vous avez une très belle élévation, quelque chose dans la verticalité, et vous êtes confronté à cette verticalité, vous êtes presque absorbé par cette forme de noir qui peut vous aspirer, sauf qu'après vous avez aussi tous les effets de lumière qui se font, parce que sur cette toile, il y a une succession de 4 ou 5 niveaux de stries qui sont dans des axes de différents, il y en a qui sont en oblique, il y en a qui sont à l'horizontale, et ce qui fait que la lumière se réfléchit différemment en fonction de l'orientation du sillon. Et ce qui donne quelque chose d'assez ahurissant, parce que vous êtes devant une toile qui est complètement noire, et quand vous la regardez, finalement, vous voyez tout sauf du noir, parce que vous voyez tous les effets de lumière qui se font et qui sont en plus différents aux fonctions de si vous êtes en bas, au niveau du milieu ou en haut de la toile. Et donc, c'est une toile que Pierre Soulages nous a donnée à l'occasion de sa troisième donation, et donc pour ses 100 ans, et donc qui vient d'être accrochée dans les salles du musée. Donc on attend de pouvoir réouvrir le musée, donc on a profité de cette donation pour refaire deux salles du musée, et donc refaire la scénographie, donc la présentation des œuvres. Donc ceux qui connaissent déjà le musée vont avoir quand même une belle surprise, parce que des tableaux ont été déplacés, d'autres ont été mis, notamment des œuvres qui sont assez sidérantes et assez importantes, qui sont remarquables et qui sont maintenant présentées dans le musée. Donc maintenant nous n'attendons plus que pouvoir ouvrir pour que tout le monde puisse regarder et admirer ces œuvres-là.
Alors, au risque de vous répéter, Christophe Hasman, si Pierre Soulages est un peintre à la renommée internationale, dans l'histoire de la peinture, il aura marqué pourquoi, en fait ?
Parce qu'il a eu la force de transcender la peinture elle-même. C'est-à-dire qu'il a deux carrières presque, Pierre Soulages. C'est-à-dire qu'il a une première carrière où il va avoir une reconnaissance très tôt, hein, dès les années 50, il est reconnu. Et donc il va ensuite travailler, ses peintures vont être reconnues dans le monde entier. Sauf qu'à un moment donné, dans les années 60, on se dit que la peinture n'est peut-être plus forcément à la mode, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y arrive le pop art aux États-Unis, qu'il y arrive les performances, qu'il y arrive en fait tout un tas d'autres médiums, la vidéo et tout ça. Et on se dit que la peinture, c'est plus vraiment ce qui fait vibrer dans le monde de l'art. Et Pierre Soulages subit aussi ça. Et simplement, il a la force de transcender la peinture et de faire que la peinture devienne autre chose. Puisque sa peinture n'est plus simplement une peinture, sa peinture va devenir presque aussi une forme de sculpture d'une certaine manière. Elle va devenir autre chose avec les effets de lumière qu'on va voir donc sur la toile. Et c'est le premier, c'est vraiment en ça qu'il est un précurseur, c'est le premier à faire que la lumière devienne un élément de la peinture. Mais la lumière que je parle, la lumière non pas quelque chose qui est simulé dans le tableau. Là, on a vraiment la lumière réelle qui va apparaître sur le tableau et qui va bouger sur le... qui va faire des phénomènes, des éléments assez remarquables sur la peinture. Donc il a marqué l'histoire de l'art parce qu'il a amené quelque chose à la peinture, parce qu'il a transcendé la peinture et parce qu'il a été précurseur et que personne d'autre n'avait fait avant lui.
Alors votre musée donc a ouvert en 2005 suite à donc au legs et au don exceptionnel donc de 500 œuvres par Pierre Soulages lui-même.
Le musée n'a pas ouvert en 2005. Le musée a ouvert en 2014.
Ah pardon, d'accord. La donation
qui a donné l'idée en fait de faire ce musée.
Autant pour moi, merci. On peut lire donc à propos de votre musée que c'est un projet culturel et scientifique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du bâtiment et justement du travail sur la lumière pour la mise en valeur de ces œuvres et quand on dit projet culturel et scientifique, pourquoi est-ce qu'on ajoute scientifique?
Oui. Alors, je commence par le côté scientifique peut-être. Donc, nous avons dans le musée un centre de documentation donc sur la personne de Pierre Soulages, sur les œuvres de Pierre Soulages, renfermant divers documents, diverses publications, c'est-à-dire que des chercheurs peuvent venir au musée pour travailler sur l'œuvre de Pierre Soulages, sur l'artiste Pierre Soulages. Et nous avons aussi l'idée de conserver l'œuvre, toutes les œuvres qui nous sont données, de conserver aussi la mémoire du travail de Pierre Soulages. Et donc c'est en ça qu'on a aussi ce domaine scientifique. Même si en plus notre musée dépasse simplement la personne même de Pierre Soulages, parce que Pierre Soulages, pour l'ouverture du musée, il a exigé qu'il y ait à peu près un quart de l'espace d'exposition qui soit consacré à d'autres artistes que lui-même. Ce qui fait que nous avons une programmation d'exposition temporaire. Nous avons présenté notamment des expositions sur Klein, sur Picasso, sur Calder, sur Le Corbusier. Donc ça permet aussi de voir d'autres aspects de l'art et de voir comment est-ce que tous ces artistes ont à un moment donné discuté d'une certaine manière avec l'œuvre de Pierre Soulages. Et donc pour le côté...
C'est parfois ma spécialité. Donc ça, c'est pour le projet culturel et scientifique de poser deux questions en une. Le lieu, vous avez dans ce musée, donc vous êtes très attentif à la lumière. Expliquez-nous comment vous avez travaillé à mettre en valeur, grâce à la lumière naturelle, les œuvres de Pierre Soulages.
Oui. Alors, les architectes ont fait un travail remarquable. Il s'appelle RCR Architectes. Et donc, ils ont créé un bâtiment. Ils ont gagné un concours, en fait, et dans leur dossier, ils ont fait un travail qui est complètement en lien avec l'œuvre de Pierre Soulages. C'est-à-dire qu'ils ont pris la peinture de Pierre Soulages et ils ont regardé quelle était la meilleure manière de la mettre en lumière. Et donc, ils ont travaillé avec des grandes baies vitrées, avec aussi un mur en métal à l'intérieur, un mur métallique également à l'extérieur. Et ce mur métallique à l'extérieur, qui est en acier Corten auto-patiné, donc qui a rouillé, ça étonne parfois d'ailleurs certains visiteurs qui nous demandent comment ça se fait que ça a mal vieilli comme ça, et on leur explique que non, pas du tout, ça n'a pas mal vieilli, c'est que c'est même volontaire, et que cette rouille qui est sur le bâtiment, elle change en fonction de la lumière, c'est-à-dire que tout au long de la journée, on voit une couleur, une tonalité de rouille qui change, qui peut être parfois très rouge ou dans les orangés ou dans les bruns parfois quand il n'y a pas de soleil et qu'il fait très gris. Et donc ce qui fait que comme sur l'œuvre de Pierre Soulages où la lumière est également très importante, sur le bâtiment cette lumière est aussi très importante. Et donc c'est une sorte de traduction en architecture de l'œuvre de Pierre Soulages. Et donc c'est un écrin assez fabuleux. C'est vrai que j'avoue, mon lieu de travail est assez remarquable, assez intéressant, et j'ai de la chance parce que autant le bâtiment qui a reçu le prix Pritzker, donc le prix Nobel d'architecture, que tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc Pierre Soulages, qui est l'artiste vivant le plus connu au monde actuellement, l'artiste français vivant le plus connu au monde actuellement, ces deux éléments-là sont au même endroit à Rodez, et ce qui semble assez improbable quand on y pense. D'ailleurs, ça a aussi beaucoup changé de choses pour l'Aveyron et pour Rodez, parce qu'avant, Rodez n'était pas forcément très connu. Aujourd'hui, le musée Soulages, dans le monde entier, C'est à Rodez, et donc Rodez, maintenant, le nom est un peu connu grâce à tout ça.
Alors, sans vouloir, on va dire, vous enlever le, on va dire, le projecteur de la ville de Rodez, j'aimerais qu'on finisse avec vous en parlant des vitraux que Pierre Soulages a fait. Ça aussi, oui. Peut-être que les auditeurs le savent, donc c'est pour l'abbaye Sainte-Foy de Conques. Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce travail, sa particularité?
Oui. Mmh. Pierre Soulages a... ne souhaitait pas travailler sur le vitrail en particulier, il ne savait pas trop ce qu'il pouvait y apporter, surtout de la manière dont il peint n'était pas forcément adapté au vitrail, et simplement un jour on va lui proposer de travailler sur les vitraux de Conques, et Conques c'est en Aveyron, et évidemment il adore ce lieu parce que c'est dans ce lieu qu'il a eu sa première émotion artistique quand il était enfant, et qu'il a décidé qu'il allait vouer sa vie à l'art. Et donc, on lui propose Conques, il dit, bah, je ne peux pas refuser, et donc il s'y penche. Simplement, il se dit, je ne vais pas faire des vitraux comme tout le monde, je ne vais pas adapter ma peinture sur du vitrail, et donc il va faire une autre recherche. Il va faire une recherche qui est aussi basée sur l'architecture, comment est-ce qu'il peut amener plein de lumière à l'intérieur du bâtiment, et comment est-ce qu'il peut aussi transcender cette forme d'architecture. Et donc, il va inventer un verre qui n'existe pas encore. Il lui faudra 7 ans de travail, 800 essais de verre pour réussir à obtenir ce qu'il souhaite, qui est un verre en fait translucide et non transparent, qui permet en fait de faire rentrer toute la lumière à l'intérieur du bâtiment sans qu'on puisse voir l'extérieur du bâtiment quand on est à l'intérieur. Donc il est translucide et non transparent, et ce verre a là cette particularité d'évoluer aussi en fonction de la lumière. Alors c'est comme l'architecture, c'est comme la peinture de Pierre Soulages, la lumière devient très importante, ce qui fait que ces vitraux, quand vous venez à une heure différente de la journée, vous allez les voir avec une couleur différente, parce que la couleur du ciel n'est pas toujours la même, et que parfois il peut être très rosé, par exemple le soir au coucher du soleil, il peut être très bleu quand il fait très beau, il peut passer dans les gris, et donc vous allez avoir des vitraux qui changent de couleur au cours d'une même journée, au cours de l'année, et ce qui fait que, comme la peinture de Pierre Soulages ou comme ce musée, vous avez toujours une vision renouvelée de ce que vous allez voir. Et donc c'est aussi ce qu'a inventé Pierre Soulages, c'est que le temps est aussi, la temporalité est très importante dans son travail.
Eh ben merci pour cette balade, on va dire au pas de course avec vous, en tout cas dans la vie de Pierre Soulages, son œuvre et donc ce musée, évidemment à découvrir dès que ça sera possible. C'est un lieu aussi qui ne manque pas d'humour. J'ai vu entre autres une série, donc Le Chat de Philippe Guéluc, on pouvait voir ce dessin. Panne de courant au musée Soulages, ça reste beau. Voilà, vous avez en plus de l'humour. Rendez-vous est donné, donc on va faire une deuxième pause musicale. Et puis on va retrouver notre troisième invité. Cette fois, on va aller s'envoler du côté du parc national des Pyrénées.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Partir loin en Occitanie, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église en ce vendredi matin, avec autour du plateau, pour ceux qui nous rejoindraient, Daniel Soukas des Soukas, directeur du Pic du Midi, Christophe Hazeman, directeur adjoint du musée Soulages, et Marc Tisser, qui est directeur du Parc National des Pyrénées. Fin d'émission avec vous, Marc Tisser, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour et merci de m'accueillir.
Ben, je vous en prie, merci à vous de venir. Alors, on ne sait plus où donner de la tête dans notre beau sud-ouest. Avec vous, donc, on finit aux frontières du sud de la France, donc dans le parc national des Pyrénées. Par quoi commencer, c'est difficile. On peut peut-être commencer par un lieu. On s'est dit qu'on allait emmener les auditeurs au cirque de Troumouse. Dites-nous à quoi ça ressemble. On est dans ce cirque. Qu'est-ce qu'on y voit pour commencer, Marc Tisser?
Oui, alors bon, magnifique cirque. Hein, donc, on est en proximité de Gavarnie, hein, on est dans le site patrimoine mondial Montperdu, mais ce cirque-là qui est magnifique, hein, donc qui se situe dans des altitudes de l'ordre de 2200 mètres, donc on est vraiment déjà dans de haute montagne, sur des cirques glaciaires, avec un cirque qui est majestueux et d'une dimension quelque part impressionnante, hein, puisque donc c'est une muraille qui fait 4 km de diamètre, hein, donc une circonférence de 11 km pour situer, donc c'est quelque chose d'assez immense. On est dans un des cirques, des plus grands cirques des Pyrénées, mais aussi d'Europe, donc pour situer quand même ce cirque-là, donc parfois on parle pas beaucoup, hein, on parle plus classiquement du cirque de Garnier, qui est magnifique, mais là on est sur un cirque qui est moins vertical, plus accessible, et qui a quelque part la vertu, on peut y aller relativement facilement. C'est pour des gens qui ont quelques difficultés, on peut aujourd'hui s'en approcher assez facilement en voiture, puisqu'il y a un aménagement qui permet de monter assez haut. On peut arriver au parking du Maillet, et à partir du parking du Maillet, on peut y aller soit à pied, ce qui permet de faire une randonnée assez sympathique. Sinon, il y a une petite navette qui, en l'été, hein, donc de mi-juin à fin septembre, va permettre aux gens d'y accéder, moyennant un tarif tout à fait raisonnable.
Alors, Marc Tisser, je vous arrête peut-être parce que pour une radio comme la nôtre, évidemment, ça a quelque importance de faire une précision, c'est qu'au cœur de ce cirque splendide, donc avec de l'autre côté l'Espagne, il y a une Vierge, qui est une Vierge de Lourdes, si je ne me trompe pas, qui regarde vers la frontière espagnole.
Exactement, et qui offre un point de vue majestueux. Donc, c'est souvent des gens qui aussi vont dans ces endroits-là passer un moment, se recueillir et observer ce site-là, puisqu'effectivement, de la Vierge, on a un panorama très ouvert, c'est un cirque qui est très ouvert, on a des prairies parcourues par un ensemble de rues, de petits ruisseaux, si vous voulez, qui se jettent dans le lac des Verts, et aussi beaucoup de troupeaux l'été, de troupeaux de vaches, de moutons, dispersés dans ce secteur-là, qui donnent quelque part un aspect de pâturage très 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 sympathique dans lequel on va pouvoir se promener, découvrir ces paysages majestueux, y compris regarder dans la vallée beaucoup plus largement et avoir des points de vue de haute montagne, ce qui est effectivement quelque part quelque chose d'assez exceptionnel.
Assez exceptionnel.
Donc, ça, c'est alors, des possibilités de randonnée relativement importantes, hein, donc depuis ce point de vue-là.
Donc après ce premier point de vue sur ce lieu, donc qui ressemble à soit un paysage un peu lunaire ou un mélange d'Irlande et d'Écosse, présentez-nous le parc national des Pyrénées. C'est donc un des 11 parcs nationaux français. Parc, je ne sais pas s'il est gigantesque, mais en tout cas, il fait 200 000 kilomètres carrés, si j'ai bien noté.
Alors non, pas kilomètres carrés, parce que là, ce serait effectivement immense, donc on est plutôt sur 250 000 hectares.
Ah, 250 000 hectares, pardon, vous voyez, je suis fatigué, c'est la fin de la semaine.
Le chiffre était à peu près bon, pas limité, mais le chiffre est bon, donc effectivement, on a l'habitude de différencier deux zones, une zone de très haute protection qu'on appelle la zone cœur et qui fait 45 000 hectares, et une zone qui est l'aire en continuité, qui est ce qu'on appelle l'aire d'adhésion, qui est de 205 000 à 206 000 hectares à peu près. Voilà. Et qui fait que ces deux zones sont en continuité, bien évidemment, mais donc sont des lieux d'exception, hein, donc avec des paysages un petit peu partout, comme le site creux de Troumouse, mais il y a un ensemble de sites qui pourraient plus être cités, qui sont tout aussi magnifiques les uns que les autres, et dans lesquels on trouve une richesse tant faunistiques que botaniques, et donc des milieux, des habitats qui sont aussi remarquables les uns que les autres.
Alors, il faut dire qu'il y a six vallées, c'est ça, hein, qui traversent le parc.
D'est en ouest, six vallées. Si on part du Béarn, donc on a deux vallées béarnaises que sont les vallées d'Aspe et vallées d'Ossau. Et après, on bascule donc dans les Hautes-Pyrénées avec la vallée des Gaves, la Haute-Bigorre et la vallée d'Or, hein, donc qui sont effectivement nos trois vallées effectivement à la matière. Alors après, c'est clair que cet ensemble-là, il y a des continuités, il y a des différences de paysages, de climats qui ont façonné dans le temps des paysages assez différents, avec une présence humaine importante, hein, donc, puisque le pastoralisme s'y exerce de longue date. On a des études et des travaux archéologiques qui ont montré que c'est depuis au moins 7000 ans que le pastoralisme se trouve dans ces lieux-là, et donc ce pastoralisme qui a contribué à façonner ces paysages aussi, hein, donc qui est un des acteurs importants de ce territoire.
Alors Marc Tissère, avant qu'on regarde un peu du côté de la flore ou de la faune, on peut, quand on fait quelques recherches, on voit que vous avez un métier qui est large, information du grand public, respect de la réglementation, suivi des espèces et des travaux. À quoi ça sert, entre guillemets, un parc national? Qu'est-ce qu'on y fait quand on y travaille?
Ce qu'on y fait, comme ça a été dit dans ces missions-là, on protège bien sûr le patrimoine qui a été reconnu pour sa richesse, donc on a vocation à le protéger, mais à le restaurer si besoin, et à le faire connaître. Le but, c'est, on est persuadé qu'effectivement, il faut le faire connaître, le faire découvrir, et donc accompagner, que ce soit les gens qui viennent le découvrir, qui viennent y faire du tourisme ou des randonnées ou y faire des activités diverses. Donc c'est aussi les accompagner dans cette découverte, parce que parfois on passe dans un lieu sans en mesurer toute la richesse. Donc il y a cette richesse historique que j'évoquais, mais il y a ce patrimoine naturel qui parfois est méconnu. Et donc notre rôle, c'est à la fois de faire découvrir, mais c'est aussi de faire respecter. C'est pour ça qu'il y a aussi des missions de surveillance du territoire, hein, et potentiellement de police. Donc notre objectif n'est pas de faire de la police pour la police, mais en tout cas c'est d'essayer de faire comprendre aux personnes que aller dans ces milieux-là, ça se respecte. Les déchets, ben on les reprend, on ne fait pas forcément du feu, on essaie de ne pas introduire d'animaux qui sont pas forcément habituellement dans ces milieux-là, pour ne pas déranger. Et c'est simplement l'objectif de ne pas déranger une faune dont on a besoin de la préserver, parce que malheureusement, parfois, par méconnaissance souvent, on peut la déranger et finalement arriver à des conséquences nuisibles pour cette faune-là. Donc on va participer un petit peu à toutes ces missions-là, et mais aussi à des programmes de travaux de recherche, parce que on a besoin d'engranger de la connaissance, et donc on travaille avec des universitaires, des écoles sur des programmes de recherche qui permettent de travailler, d'avoir une meilleure connaissance de comment se comporte la faune, comment se comporte la flore, et effectivement, ça nous permet de mieux faire partager cette richesse-là qui peut y avoir sur le territoire.
Alors, du côté de la flore et de la faune, je vois le temps qui passe, alors je voulais quand même qu'on prenne le temps de s'arrêter sur, au moins sur peut-être deux aspects. La flore, elle est immense, évidemment, hein, on peut 2500 espèces végétales, dont une partie donc, sont des espèces endémiques. Vous avez, semble-t-il, comme emblème, enfin, je ne sais pas si c'est un emblème, en tout cas, la pensée de l'Apérouse, donc qui peut parler à certains. Mais alors du côté de la faune, 400 espèces animales, 1000 espèces de coléoptères, 300 de papillons, 200 d'oiseaux. Je voulais qu'on s'arrête sur le Desman, je ne sais pas comment on vous dit, Desman des Pyrénées, qui est un petit animal. Pourquoi cet animal particulièrement est-il mis en valeur par le Parc national des Pyrénées?
Mais c'est parce que cet animal un peu mystérieux, et c'est cet animal-là, c'est d'abord une espèce endémique donc aux Pyrénées, et donc c'est une espèce qui est effectivement fragile, et qui est méconnue, et qui effectivement, dont la biologie est aujourd'hui étudiée, on en connaît un petit peu mieux, mais elle reste quand même pour beaucoup de points assez mystérieuse. Et effectivement, alors c'est un petit animal qu'on appelle aussi le rat-trompette, hein, en raison de son museau allongé, donc espèce par nature mystérieuse aux mœurs discrètes. Donc c'est vrai que c'est un animal qu'on ne voit pas. C'est ça qui est un petit peu difficile. On arrive à le voir, mais il faut vraiment le faire avec des personnes qui sont complètement habituées et qui connaissent bien cet animal-là. Il est très agile, il se déplace dans les milieux aquatiques, donc dans des eaux qui sont plutôt des eaux de qualité. Alors heureusement, on a des têtes de bassin versant qui permettent de le retrouver. Et souvent, il se déplace au fond de l'eau, cherchant les cailloux où il va trouver des larves aquatiques, dont il va se nourrir en la matière. Alors c'est vrai qu'il peut être dans les cours d'eau de basse, moyenne ou haute montagne, mais c'est vrai que, voir les lacs d'altitude, c'est vrai qu'on va le trouver, comme il aime bien des eaux de qualité, on va plutôt le trouver aujourd'hui dans des secteurs un peu plus hauts, parce que souvent les eaux y sont de meilleure qualité, elles ont été mieux préservées. Et effectivement, donc c'est un animal qui est étudié depuis une dizaine d'années, en partenariat avec notamment le conservatoire des espaces naturels, qui a mené un gros travail, donc nous étions partenaires, et ça a permis effectivement de progresser de façon assez conséquente sur la connaissance qu'on peut avoir de ce petit animal mystérieux, qui, on le voit, mais quand on sait qu'il est là, on sait aussi donc par nature que on est sur des eaux de qualité. Donc c'est vrai que c'est quand même un bon indicateur de ces milieux-là.
Dernier point sur lequel on voulait s'arrêter, c'est sur les bouquetins. À l'heure où on a tous envie d'être des bouquetins sur les hauteurs pour prendre un peu l'air, pourquoi vouliez-vous arrêter sur les bouquetins? À cause du symbole?
Mais parce que c'est à la fois un symbole et c'est aussi le signe de l'espoir. Parce que, quelque part, c'est aussi un programme de réintroduction qui a été mené avec nos collègues du Parc naturel des Pyrénées-Ariégeoises, qui effectivement, depuis 2014, nous a permis de réintroduire cette espèce qui avait disparu depuis un peu plus d'un siècle, parce que c'était une espèce très chassée, dont le trophée était très recherché, et qui effectivement a donc été victime d'un abus et finalement l'espèce avait complètement disparu. Et on a réussi avec la collaboration des Espagnols à réintroduire donc cet animal qui est parfaitement adapté dans ce milieu, qui s'y retrouve très bien et qui en plus est facile à observer. Donc c'est un milieu donc où il était traditionnel, donc on lui redonne sa place. Et y compris pour les gens qui viennent dans nos montagnes, c'est bien parce que c'est un animal qui peut assez facilement être observé, beaucoup plus facilement que l'isa, parce que il se laisse approcher dès lors qu'il est quand même dans des milieux de falaise de proximité, donc on peut le voir donc assez facilement dans les secteurs où on l'a réintroduit, que ce soit sur Cotteret notamment, hein, mais pas que, dans la vallée de Luz aussi on va le trouver assez présent, et donc on a vraiment un animal qui esthétiquement est très beau, qui retrouve son milieu naturel dans lequel il était, et dont on voit, puisque les réintroductions ont été menées depuis 2014, que les naissances, qui sont un bon indicateur de son acclimatation au terrain sur lequel on l'a introduit, se passent dans des conditions absolument excellentes. Et donc, effectivement, on a un taux de reproduction qui, aujourd'hui, va très bien, et qui nous montre donc de fait que la population s'installe vraiment dans d'excellentes conditions. Voilà. Et c'est pour ça que je souhaitais effectivement évoquer cette espèce qui montre que on est capable de réintroduire un animal dans de bonnes conditions avec une acceptabilité assez facile, même s'il n'est pas tout à fait sans problème. Il y a des précautions nécessaires parce que il faut s'assurer qu'il n'est pas vecteur de certaines maladies. Donc il y a des précautions. Mais on voit bien que tous ensemble, on peut arriver à gérer positivement ce genre de projet.
Eh ben, une belle note d'espoir en cette fin d'émission. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir donné un très rapide aperçu de ce parc national des Pyrénées, évidemment à découvrir. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de restrictions. On peut se promener largement à travers ce parc national des Pyrénées. Un grand merci à tous de nous avoir fait voyager, partir loin en Occitanie. Un grand merci à vous. À la technique, Christophe Aubry. Vous pouvez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.